Salut Agatha.
Salut Lirza.
Comment vas-tu?
Écoute, ça va pas mal. Je suis un peu fatiguée, mais je vais essayer d'articuler. Je me suis retrouvée avec mes deux gosses dans le lit. Cette nuit, c'était l'enfer.
Oh non, désolée.
Oui, merci de t'excuser.
Je suis désolée pour toi.
Ah oui, merci. Merci aussi pour ça. Et toi?
Ça va bien, ouais. Il fait beau. Je suis très contente avec la tournure générale que prend le podcast cette saison. C'est sympa. Plein de nouvelles personnes.
Plein de nouveaux sujets. C'est excitant.
Bienvenue chez les poissons sans bicyclette.
Bienvenue chez les poissons.
Aujourd'hui, nous avons une invitée, c'est Jeanne. Salut Jeanne.
Salut Lirza.
Avant de te présenter, je vais d'abord dire comment ça se fait que t'es là et qu'est-ce qui fait que t'es au micro des poissons. C'est à travers le Festival des Créatives, un festival qui se passe à Genève cette année du 19 au 26 novembre. En fait, c'est un festival qui soutient et met en lumière la création artistique des femmes et des minorités de genre, ainsi que la production intellectuelle féministe à travers une programmation pluridisciplinaire, regroupant des concerts, des pièces de théâtre, des performances, des expos, des projections, des tables rondes et d'autres activités de médiation culturelle dont nous on fait partie en ce moment. Le festival offre une visibilité unique aux femmes et minorités de genre dans les arts et la culture, enrichit et diversifie l'offre culturelle et encourage la prise de conscience sur la sous-représentation des femmes et minorités de genre dans les arts. Cette année, toi, t'es invitée au festival Les Créatives. Le podcast a été contacté par Hermela du festival, qui m'a parlé de toi. Et elle a dit en fait qu'elle trouve sympa qu'au lieu que ce soit juste une ou deux performances un peu éphémères, puis une fois que c'est terminé, de pérenniser un peu l'intervention de Jeanne à travers soit une table ronde, soit notamment l'enregistrement d'un épisode podcast. Donc après plusieurs discussions, on a décidé de faire un épisode entre guillemets classique des Poissons sans bicyclette, c'est-à-dire que t'es ici au salon avec nous au lieu de faire un enregistrement live au festival parce qu'on voulait que tu sois un peu englobée dans l'ambiance.
Je me sens très englobée et j'ai pas dit bonjour à Agatha.
Bonjour Jeanne.
Donc merci beaucoup les créatives de nous avoir fait confiance parce qu'elles ont dit qu'elles voulaient soutenir une initiative locale, donc elles ont contacté les poissons et c'est top. Du coup Agatha, est-ce que tu veux présenter Jeanne s'il te plaît?
Alors re-salut Jeanne, je vais compléter parce que tu t'appelles Jeanne Spetter, que tu as 30 ans et que tu es comédienne performeuse. Si jamais je dis quelque chose qui est totalement faux, tu cries.
D'accord.
Tu travailles à Berne dans l'atelier 260.2 du Progre et à Paris. Tu as fait une formation théâtrale et un Master of Arts in Contemporary Art Practices. Tu m'as fait une épreuve là.
Ouh.
À la Hochschule der Künste Berne.
Génial.
Que tu obtiens en juin 21. Attends, franchement, est-ce que j'ai passé le test des accents?
Je sais pas.
C'est un peu dur, je ne sais pas. Donc ton travail performatif réside dans l'infiltration du quotidien, l'exploration des frontières entre fiction et réalité, entre privé et artistique. Ta vie intime devient le terrain des performances qui sont documentées par l'écriture, la photo ou l'enregistrement audio. Depuis 2019, tu questionnes la thématique de l'amour dans une série de performances qui tentent de dénuer cette notion de son aura mystique et romantique afin de l'analyser en des termes entrepreneuriaux et sociologiques. Tu souhaites ainsi mettre en lumière les codes normatifs qui sous-tendent nos relations amoureuses, avec pour but idéal la tentative de s'en affranchir. Tes performances ont été montrées à Berne, à Bâle, à Paris, et j'ai vu qu'un film documentaire réalisé par Yannick Mosiman, retraçant en 92 minutes le projet, va paraître dans le cadre du Zurich Film Festival.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est la performance dont on va parler aujourd'hui, et puis bien sûr à Genève avec les créatives, donc dans quelques jours.
Ton ton était incroyable, je me sentais tout d'un coup chez France Culture.
Oui, c'est
j'étais
ça.
Là, waouh.
J'ai été biberonnée à France Culture.
Ça se sent.
Donc tu es là aujourd'hui et tu seras au Festival des Créatives pour parler de ton projet.
Relation amoureuse de qualité. Amoureuse. Le spectacle, enfin la performance s'appelle Amour sous contrat.
Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton projet Relation amoureuse de qualité?
Ouais, c'est un peu la suite de plusieurs projets performatifs que j'ai menés. Je vais peut-être pas faire la genèse parce que ça va prendre vraiment beaucoup de temps, mais disons que j'ai voulu analyser l'amour par un biais qui n'était pas du tout romantisé. En tant que femme, parler d'amour, c'est toujours un peu « Ah, voilà, elle va faire un truc un peu mièvre avec des petits cœurs et tout ça. » Et j'ai voulu vraiment prendre le contre-pied et voir en fait l'amour comme aussi un sujet qui est empreint de capitalisme et comment nos relations sont aussi en fait des transactions, des échanges, des jobs presque. Et je me suis dit, après avoir mené des enquêtes de satisfaction auprès de mes précédentes relations, je me suis dit, ben en fait, si l'amour est un job, alors il faut un contrat qui régit le couple, qui est vraiment le travail salarié, quoi. Donc j'ai dressé un contrat qui s'appelle le contrat de relation amoureuse de qualité, qui définit en 14 clauses les termes d'une relation hétéronormative. Donc vraiment la relation la plus basique possible, vraiment le contrat social que j'observe beaucoup autour de moi, donc j'ai écrit vraiment en observant ce qui m'entourait, en observant aussi la pop culture qui véhicule beaucoup de stéréotypes sur le couple. Et donc voilà, j'ai écrit ce contrat, donc qui régit par exemple le nombre d'heures que les deux partenaires hétérosexuels donc, doivent passer ensemble dans un mois, le nombre de nuits passées ensemble, le nombre de relations sexuelles, le moment de présentation aux parents, aux amis, le moment de se dire je t'aime, quoi faire avec l'argent, où aller en vacances, comment se tenir la main en public. Ah, et j'ai écrit ce contrat aussi avec l'aide d'une avocate, maître Emma Lydon. Donc il n'est pas légal, mais il est le plus proche de la légalité possible. Et après, je me suis dit, ah, trop fun, ce serait marrant de vivre ce contrat, cette expérience pendant 365 jours. Donc avec une personne inconnue, que je ne choisis pas pour des critères d'attraction, mais vraiment simplement pour des critères qui sont habiter la même ville, parler français ou anglais et vouloir faire ça, et être un homme, cis. Et donc j'ai trouvé quelqu'un après 3 mois de quête. C'était long, je me suis dit, je vais jamais trouver personne, mais il y a quelqu'un qui s'est présenté pour ça, on pourra peut-être en reparler après. Mais... Et donc on a vécu ce contrat, et l'idée c'était de voir, ok, est-ce que d'un contrat froid, rigide, légal, peuvent naître des émotions entre deux inconnus? Quel genre d'émotions? Et à partir de quand est-ce qu'on peut dire que c'est de l'amour, en fait? Et qu'est-ce que... L'amour, what is love?
Super. What is love, j'ai juste une question rapide. Pourquoi tu dis que c'est pas légal, c'est le plus proche du légal? Qu'est-ce qui le rend pas légal, en fait?
Alors, ce que j'ai compris, c'est ça met sur papier des choses qui sont pas légalisables, comme les émotions, les sentiments. Avoir un sentiment d'amour pour, tu peux pas légiférer okay. ça. Quand il s'agit d'émotions ou d'intime, ou même, en fait, là, on légifère aussi du sexe. Donc, oui. Ça devient très limite sur les problématiques de travail de sexe et tout ça. Et donc, je pouvais pas aller dans un tribunal D'accord. avec ça. Mais aussi, ce que je voulais montrer avec vraiment juste l'exercice de l'écriture de ce contrat-là, c'était, ok, ça peut paraître complètement extrême d'écrire un tel contrat, mais en fait, quels sont les termes de vos relations amoureuses? Est-ce que vous suivez aussi un contrat, vous donc, le public de cette performance? Quel est en fait votre contrat? Et quand on se dit pas les choses, il y a un contrat tacite. Et quel est-il? Et en fait, est-ce qu'on suit pas tous, toutes, un contrat tacite?
Ouais. Super, merci beaucoup pour l'explication. Ouais. Le contrat n'est pas public pour le moment, donc nous on n'a pas pu le lire. On a découvert ton projet à travers le compte Instagram qui existe, @relationsamoureusesdequalité. Donc là, on voit vraiment tout le cheminement que toi et Mike, vous avez eu, aussi des rapports mensuels, et on s'aperçoit déjà de quelques clauses du contrat. En découvrant ça, en découvrant des entretiens que tu as déjà fait aussi avec d'autres journalistes, on a beaucoup parlé, on a plein de questions qui sont sorties. Il y a plein de questions qui sont sorties sur le fond du projet, le pourquoi, plein de questions qui sont sorties sur la forme du contrat. Enfin, vraiment, c'était, de ce point de vue-là, c'était super parce qu'on a beaucoup parlé. Et donc, en fait, le but de l'épisode, si toi, t'es d'accord, c'est qu'on partage avec toi toutes les questions que nous, on s'est posées. Des fois, c'est juste des réflexions plus que des questions. C'est assez marrant parce qu'en lisant tes articles, à un endroit, je ne sais plus dans quel journal, j'ai lu que tu disais, en fait, ce que tu viens de dire, que tu voulais voir si l'amour, l'affect peut naître de quelque chose d'aussi froid que le contrat. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai réagi, j'étais là, mais en fait, on sait que oui.
Elle fait une tête, c'est cool. Trop marrant. J'ai pensé que t'allais me dire exactement le contraire. Ben, on sait que de toute façon, non.
C'est clair que oui, moi j'ai tellement d'exemples.
C'est l'histoire du monde, quoi.
Mais c'est cool, on va en parler.
Bon, bref, on va en parler.
Moi, ma réaction, c'était genre, mais évidemment que oui, tu vois. Et du coup, je comprenais pas trop le fond du projet. Et après, à un autre article, le même, tu disais, au fond, ce que je trouvais marrant, c'est d'écrire le contrat. Et là, c'est vraiment mon point d'accroche avec toi, en fait. Quand j'ai lu ça, j'étais là, ça, je comprends vraiment. Parce que je pense que ça doit être vraiment trop marrant. En fait, on va du coup partager tous les questionnements que nous, on a eus avec la structure suivante. On va d'abord parler du contrat. On va d'abord parler des objectifs de ce genre de démarche, de la performance artistique à la performance féministe, l'encadrement féministe en fait, et on verra sur quelle conclusion on tombe, parce que je t'avoue qu'on l'a pas encore.
Bon, on va la trouver peut-être.
Oui, peut-être on va la trouver. Est-ce que ça te va comme programme?
Super, à fond, allons-y.
Super. Agatha, est-ce que tu veux parler du contrat?
Oui, donc comme Lirzad disait, on s'est dit qu'on allait d'abord questionner, vu qu'on n'a pas lu le contrat et qu'il y a 14 points, on s'était dit qu'on va t'exposer les points dont on ne sait pas s'ils existent. Mmh. Peut-être qu'ils existent et puis tu vas nous dire si ils existent et on pourra en parler. Et puis s'ils n'existent pas, on pourra peut-être avoir une discussion autour de ça. Okay. Nous, effectivement, on avait connaissance de ce que tu as cité, à savoir les rencontres avec les parents, les proches, se tenir la main, etc. Mais quand même, on s'est dit, quid des tâches ménagères, par exemple? Parce qu'on sait que on parle des relations et du contrat tacite dans la société qui régit en fait les agissements du couple. Il y a quand même une chose qui pour nous est une évidence, qui est donc cette domination dans le foyer de l'homme sur la femme dans une répartition inégale des tâches. Donc notre question, elle est un peu double, c'est est-ce que ton contrat partait d'une égalité a priori des deux êtres, homme et femme, ou est-ce qu'il y avait un regard sur les tâches ménagères qui définissait pour rester dans le cynisme, par exemple, que tu faisais 80. Enfin, en gros, qui fait la vaisselle quand Mike vient manger chez toi, quoi. C'est ça, la question.
Ah ouais, c'est trop... ouais, bah, très bonne question. En fait, c'est pas dans le contrat.
Ok.
Bravo. je l'ai pas mis, j'y ai pensé, mais je l'ai pas mis parce que j'ai aussi choisi qu'on n'habite pas ensemble, parce que c'était déjà quand même assez demandant. Mais en fait, t'as raison, les tâches ménagères, elles n'existent pas que dans le cadre d'un ménage. Ouais. Mais aussi, oui, quand tu viens chez moi, est-ce que je te fais à bouffer et je nettoie ta mère après? Bon, peut-être pas. Donc, non, ça.
Et je baisse la cuvette après toi.
J'avoue. Donc non, ça je l'ai pas régi. Mais si je l'avais légalisé, je pense que j'aurais fait un truc de 50-50, par exemple, pour les finances. Je me suis aperçue après coup que j'aurais pas dû faire comme ça. J'avais mis que toutes les dépenses qui généraient un peu de la vie de couple, donc les sorties et tout ça, étaient séparées, payées à 50-50. Ouais. Mm-hmm. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est tellement con. Lui, il est actif, il a un salaire. Moi, je suis étudiante. Ok, j'ai peut-être un... Mais en fait, on aurait dû regarder et faire un prorata. Et je me suis aperçue de ça et je me suis dit, merde. En fait, c'est pas ça le féminisme, c'est pas vouloir payer sa part. C'est en fait trouver une équité, pas une forme de 50-50 qui n'a pas de sens dans notre cas là. Peut-être que je serais partie sur 50-50 sur les tâches ménagères et en fait il aurait peut-être fallu réfléchir autrement.
Ouais. Ou même faire l'inverse, c'est si tu veux vraiment faire la relation hétéronormative, c'est qu'en tout cas genre les 10 premiers dates c'est lui qui paye.
La question c'est, est-ce que tu veux exploiter le cynisme? Parce que finalement ce contrat, enfin à mon sens, à notre sens, c'est une forme de cynisme qui est je rends objective les tâches et je les rends légales, même si c'est une fausse légalité dont on a déjà parlé, dans un truc assez cynique. Dans le même sens, t'aurais pu dire moi, je fais 80% des tâches ménagères. Je sais pas, j'ai n'importe quoi. Et puis toi, tu payes dans les 10 premières dates. Et puis, de toute façon, dès qu'on sort, c'est toi qui payes. Moi, je paye une fois sur 10, mais seulement quand c'est pas cher.
Ouais.
Et puis, c'est toujours toi qui conduis.
Ouais. Oui, complètement. Complètement. Après...
Est-ce que c'était toujours lui qui conduisait?
Bien sûr.
C'était dans le contrat.
Sa voiture en plus. Mais après, si, point de vue critique, oui. Alors, toutes ces normes, je les ai mises sur papier parce que j'ai un point de vue critique sur l'hétéronormativité et que je voulais quelque part montrer son absurdité en la reproduisant. Donc ça, c'est bien sûr, en tant que démarche artistique, ça peut être critiquable de dire... Tu reproduis juste ce qui se passe, mais tu proposes aucune solution. Effectivement.
Oui, mais c'est pas ton taf de proposer une solution non plus.
Ouais, moi je voulais surtout pointer et puis dire en fait, c'est marrant, non, ça
Ouais.
C'est un peu débile et pourtant on est toutes et tous, on suit ce modèle-là.
Et du coup, le nom aussi, c'est un peu cynique, c'est relation amoureuse de qualité. Ouais. Mais j'avais juste une question de clarification en fait. Quand tu dis amour romantique, c'est assez équivalent avec amour hétéronormatif
Romantique, je dirais plutôt dans le sens de vraiment le mythe, quoi, du grand amour unique et éternel. Plutôt comme ça que je vois le côté romantique. Tu vois, vraiment cet idéal qui est vraiment promu dans la pop culture et tout ça, quoi.
Que t'as trouvé la personne pour toi. Ouais. Et puis ça
et qu'il y a une personne pour toi.
Ouais, et qu'il y a une personne pour toi. Ouais.
Et que, donc, a priori, c'est un homme. Donc, ça rejoint l'hétéronormativité, mais pour moi, il y a un peu plus.
Il y a une différence.
Ouais.
Il y a une personne pour toi et elle dure toute la vie, en plus.
Ouais.
Ok, intéressant, merci. Par rapport à l'hétéronormativité, j'avais une autre question, mais je pense que t'as répondu. C'était par exemple par rapport au nombre d'heures que vous passez ensemble par mois. Mm-hmm. Est-ce que c'était établi, genre, que vous passez 50% du temps à faire des choses que Mike aime et 50% du temps à faire des choses que Jeanne aime, ou comment vous décidiez des activités?
En fait, il y avait aussi tout un truc qui était intéressant de construction, pas forcément du désir, mais construction de l'entente, de rencontrer quelqu'un qui vient pas du tout, dans ce cas-là, c'était vraiment random, mais pas du tout du même milieu socio-économique, culturel. Mm-hmm. Et donc, comment construire le commun. Et donc, c'était plutôt... c'était pas légiféré, mais on devait faire des activités. Il y avait une liste d'activités
préétablies,
proposées, par exemple. Enfin, voilà, tous les trucs très clichés, faire des préparations culinaires en duo, du sport, de la randonnée, aller au zoo. Enfin, bon, voilà. Et après, c'était un peu plutôt, se faire comprendre et découvrir nos univers. Donc je l'amenais au théâtre avec moi, on a joué à des jeux vidéo, enfin voilà, on a vraiment essayé de se un peu croiser nos mondes.
Donc ça, c'était dans le contrat, qu'il fallait s'investir dans la compréhension de l'univers de l'autre, ou pas?
C'était pas dans les activités, mais ouais, il y avait un truc de, je sais plus exactement ce que c'était les termes, mais s'intéresser, poser des questions aussi sur le passé, enfin avoir une compréhension intime de l'autre.
Et Juste parce que par rapport à ça, j'ai un souvenir que dans une interview, tu dis « En même temps, c'est quand même moi qui portais pas mal la charge de l'organisation de la journée, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? On est dimanche ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ?» Et puis du coup, c'était quand même toi dans les faits qui portais ce... Là, tu dis que c'était une découverte l'un l'autre, mais il y avait quand même ce truc où, comme c'était ton expérience, lui, c'est un peu désinvesti ou...
Je pense que c'était improbable de trouver quelqu'un qui prenait autant au sérieux ce projet-là, oui, alors que ce n'était pas son projet, qui était vraiment au service de ce projet-là. Donc aussi, disclaimer, bien sûr que dès le début, les rapports de pouvoir étaient complètement fuckés, hein, et puis que c'est mon projet, c'est moi qui viens avec ça. Mais je tiens à dire que Mike était consentant, qu'il avait aussi ses bénéfices dans ce travail. On pourra peut-être en parler après. Ouais. Mais, donc oui, finalement, bien sûr, je me suis retrouvée à beaucoup organiser, mais parce que c'était mon projet. Et donc, j'étais extra motivée à faire des trucs qui allaient construire quelque chose entre nous. Et, mais lui était aussi proactif. Mais ouais, je pense que... un moment, c'est juste épuisant, en fait, d'entretenir une relation de couple. C'est vraiment...
Oui, mais c'est quand tu portes cette charge émotionnelle, enfin, d'organisation, enfin, toute la logistique du couple, ce qui est souvent le cas, d'ailleurs, quand même, dans une relation hétéronormative, ouais. Ben, en fait, c'est un peu ce qui t'est arrivé pour une raison que le projet était ton bébé, mais en fait, souvent, la société fait que le projet de couple est le bébé de la femme, et donc, elle se retrouve à faire ça, justement. C'est elle qui questionne le « on n'a plus d'activité ensemble », etc. On se retrouve pas, on se voit jamais, on se fait jamais un truc tous les deux et tout ça. Donc finalement, c'est marrant comme naturellement, ce projet-là faisait écho à un projet de couple. Quoi.
En fait, ce qui est fou, c'est justement ça, avec toutes les règles qu'on a dressées dans le contrat, donc qui n'étaient pas absolument complets. Comme, tu vois, on peut toujours trouver encore des trucs qu'on aurait pu rajouter dans ce contrat. Mais même ce qu'on n'a pas réglé à travers le contrat, on a fini par suivre un chemin giga normatif. Alors oui, au bout d'un moment, il y a eu une tromperie, alors que c'était une relation monogame. Il m'a trompée, on a fait une pause, on s'est remis ensemble, il y a eu un regard. Enfin, tu vois, vraiment, ça a suivi vraiment le pattern du couple. Et tu te dis, mais c'est fou, est-ce qu'on est tellement empreinte de ça qu'en fait, ça nous, ça nous suit, même si, enfin, l'aliénation, quoi, même si tu veux t'en défaire, ça reste là, ancré.
Une autre question à laquelle tu as déjà répondu, donc la monogamie, elle était définie. Et puis maintenant vient la question sexe, parce qu'on sait, enfin, ce qui nous a fait réfléchir, c'est qu'on sait que le couple est soumis à un certain nombre d'injonctions sociales qui s'introduisent jusqu'à dans leur lit et qui définit en fait la façon aussi dont on fait le sexe. Donc vous aviez 4 fois par mois. L'objectif de cette question, c'est pas de rentrer sur les notions de consentement qui mériteraient un podcast à elle toute seule, je pense, parce que évidemment ça pose plein de questions, puis il y a certaines interviews où on t'a déjà branché là-dessus. Non, nous, ce qui nous intéressait de savoir, c'était est-ce que vous avez défini qu'est-ce que c'est faire le sexe, comment ça marche, et est-ce que vous avez défini le nombre d'orgasmes que chacun avait ou devait avoir, et est-ce qu'on recommence jusqu'à ce que ça marche? Non, mais... parce que finalement, c'est vrai que dans la façon dont le sexe est défini dans un couple, c'est vraiment ce truc de préliminaire, je déteste ce mot parce qu'il annonce le fait qu'ensuite il y a pénétration, en gros il y a préparation à la pénétration, il y a pénétration et après il y a éjaculation masculine. Et ça, c'est le schéma qu'on connaît, etc. Et finalement, ça demande évidemment du travail pour le déconstruire à deux, etc. et dans la société. D'où la question, est-ce que tu avais réfléchi à ça et à défini ça?
Alors justement, dans le contrat, la notion de sexe n'était pas définie pour justement laisser la liberté à ce que nous, ensemble, on définisse qu'est-ce que ça veut dire du sexe pour nous. Donc, bien sûr que je suis venue avec des principes féministes et de dire, en fait, pas d'obligation de pénétration, d'éjaculation, d'orgasme ou quoi. En fait, du moment que ça implique une proximité, je crois que j'avais dit que ça implique les organes génitaux. Et encore, tu vois, déjà là, la définition, en fait, c'est déjà... très ciblé, c'est complètement. Je pense que j'ai aussi dit... qui implique les organes génitaux pour justement correspondre à ce qu'on attendrait d'un rapport hétérosexuel. Et peut-être pour dire aussi, en fait, voilà, le côté performatif, en fait, il peut aller jusque-là, et j'ai envie de pousser jusque-là, de vraiment faire du sexe conventionnel avec un inconnu, enfin, qu'on le fasse ensemble, même si on ne s'est pas forcément choisi pour ça. Donc, on l'a défini ensemble. À un moment, ça devenait plus très possible, cette histoire de sexe. Donc, on a dû faire un avenant au contrat et redéfinir ce qui nous semblait faisable et nous foutre moins la pression de se dire on doit le faire 4 fois par mois, mais quel enfer. Bah, quel enfer quand même, pas à ce point, mais enfin, moi j'ai senti au bout d'un moment, je me suis dit J'ai essayé de me convaincre pendant tout un temps, mais en fait, le sexe... Aussi, tu vois, dans cette déconstruction de, en fait, est-ce que le sexe est vraiment l'accès à ton intimité par excellence? Est-ce que c'est pas, en fait, ce qu'on en a fait? Est-ce que ça peut pas être un truc vraiment tout à fait commun, comme faire du tennis? Et j'étais, ah, ben voilà, on fait du sexe, mais je pourrais faire du tennis, enfin, tu vois.
Mais d'ailleurs, c'est le romantisme dans l'histoire qui lie le sexe à l'amour. Parce qu'avant, il y a... la chasteté et l'amour divin, et puis il y a le libertinage et les bordels de l'autre côté. Le romantisme, son objectif, c'est que les maris puissent avoir une sexualité débridée avec leur femme à qui avant on demandait d'être chaste. Donc finalement, c'est relativement contemporain, ce lien de sexe et d'amour.
Oui, puis c'est aussi toute la logique de reproduction, de créer des familles, enfin vraiment cette entité famille quoi, qui naît avec ça. Mais du coup, ouais, à un moment, on a redéfini et on a fini justement par dire, ok, en fait, sera considéré comme avoir du sexe, de se coucher nu l'un à côté de l'autre et d'avoir un contact physique quel qu'il soit.
Okay.
Et en fait, ouais, moi, ça m'a vraiment aidé justement à questionner, ok, qu'est-ce qui fait rapport sexuel et est-ce que c'est pas la motivation? Et si une caresse vraiment très sexuellement motivée sur l'épaule, tu vois, est-ce qu'on peut pas déjà dire ça, genre, ok, c'est déjà un truc, en fait.
Mais je trouve que c'est essentiel de se poser ces questions-là et de les visibiliser, justement pour sortir du schéma préconçu du sexe qui est quand même assez ennuyeux, surtout quand on a une injonction contraire, c'est-à-dire la société nous dit à la fois tu dois avoir du désir pour ton partenaire, tu dois être dans une monogamie totale, et en plus tu dois attendre jusqu'à la mort, mais aujourd'hui on meurt à 85 ans. Et si on continue à scénariser le sexe comme ça, comment tu veux continuer à dire ah bah ouais, bah pendant 55 ans, tu vas faire du sexe de la même manière, mais tu dois être très contente de le faire. Donc c'est nécessaire, quoi. Ou alors on arrête des injonctions contraires, enfin, c'est totalement contradictoire. On doit apprendre aux gens à redéfinir et à réfléchir à la sexualité, et se dire juste le coït n'est pas la seule manière d'avoir une relation sexuelle. Par quoi passe la relation sexuelle? Qu'est-ce qui différencie notre relation de celle de l'amitié, finalement?
Et aussi de lier très très fort la sexualité avec le bien-être du couple. Du coup, ça fout une pression immense.
Ouais.
J'en ai parlé beaucoup avec beaucoup d'amis hétéros en couple ou qui fréquentent des mecs ou quoi. Il y a vraiment un truc de... la sexualité est le marqueur du bien-être de ton couple. Eva Illouz en a aussi parlé dans une interview. C'est vraiment ce truc, si le sexe va mal, le couple va mal. Et donc, il y a ces deux choses qui sont vraiment intriquées et c'est peut-être pas le cas. Enfin, du coup, ça met beaucoup de pression sur l'acte sexuel, quoi. Et le fait de devoir en avoir pour que le couple fonctionne.
Exactement, en fait, de désacraliser le sexe, de l'enlever du centre de la préoccupation de la santé du couple et de dire, en fait, c'est ok de pas avoir de relations sexuelles pendant un temps donné parce que la vie, elle est faite comme ça et puis que les relations sexuelles, elles peuvent prendre une autre forme. Et surtout, arrêtons de croire que parce que le désir baisse, tout est voué à l'échec.
Ouais,
parce qu'en fait, si on désire mourir avec quelqu'un, et le faire avec joie, on doit accepter que le désir baisse, qu'il fluctue, et puis
et ça, c'est
essentiel.
Vraiment, justement, pour moi aussi, ce truc du mythe romantique, c'est vraiment le désir qu'on confond avec l'amour doit durer toute la vie. Et c'est ce truc-là de, je sais pas, l'amour dure 3 ans, de ces vieux misos de merde.
Oh my God.
En fait, tu vois, mais bien sûr, le désir, le propre du désir, c'est qu'il est créé par la nouveauté, l'excitation, la découverte. Alors oui, quand t'es dans un schéma de couple fermé, par exemple, c'est très difficile à entretenir. Mais désir n'égale pas amour. Et ça, je pense que c'est vraiment... Ouais, c'est ça. Tout est un peu en boule ensemble. Et puis, on entrevoit un peu comment ça a l'air d'être un gloubi-boulga qui est vraiment un peu merdique. Mais c'est encore difficile à détricoter, je trouve.
Et est-ce qu'on peut rappeler quand même qu'à l'époque romantique, on mourait entre 35 et 40 ans?
Si, s'il vous plaît.
Moi, il n'y a pas de problème, hein, je signe. Je rencontre un mec à 35, je clame sa 40. Tout va bien pour mon désir.
Ouais, on est ensemble.
Mais faites-moi pas chier avec d'autres mecs, quoi.
C'est
bon, j'en ai un.
Non, la monogamie, ça me va.
Dans un des posts Instagram, il y a deux trucs qui me sont ressortis. Tu disais que Mike, ça te dérange parce que t'as l'impression qu'il s'intéresse pas trop à ce que tu dis, un truc comme ça. Et moi, je trouve que ça, c'est un truc genre toutes les meufs dans tous les couples hétéronormatifs vont dire ça. Ils s'intéressent pas à ce que je dis. Je parle de trucs, ils en ont rien à foutre. Enfin, voilà. Pour revenir, que moi, je trouve normal que l'amour naisse de la part d'un contrat froid, mais que l'hétéronormativité et la soumission féminine ou la négligence des femmes naissent, c'est aussi ultra prévisible, je trouve, voire tout le système est créé pour ça. Parce que du coup, t'as sorti un truc vraiment voilà, une conséquence négative typique qu'on vit toutes. Et un autre truc que tu dis à un moment donné, c'est que, un instant s'il te plaît, parce que j'ai beaucoup voyagé dans ma tête. Ah oui, à un moment donné, tu dis j'en peux plus de moi-même, parce que des fois j'ai l'impression que tu tais trop ce que tu penses et que tu hoches la tête, tu dis oui à chaque fois que Mike parle, et t'en as marre de toi-même. Et je pense que ça aussi, on compatit beaucoup, quoi, toutes les meufs en relation hétéronormative. Et j'avais vraiment, moi, ce sentiment en mode, en fait, tu fais un contrat d'amour romantique, c'est la soumission féminine qui naît.
Ouais, moi, c'est fou. Alors qu'en fait, j'avais toute la place. J'aurais pu, tu sais, m'imposer et dire, en fait, maintenant, ta gueule, enfin, laisse-moi parler. Ouais. Ou là, t'es en train de m'expliquer un truc, enfin, tu fais du mansplaining de ouf. J'aurais pu dire, c'était pas, disons, c'était une expérimentation. J'avais cette place-là. Oui. Après, est-ce que c'est ma nature, mon caractère, ou justement cette histoire de soumission féminine qui naît de ça? Mais il y a un truc où j'étais là, mais... c'est fou. Je sais que je pourrais le faire. A priori, on a signé pour être un an ensemble, donc c'est bien le moment d'ouvrir ma gueule. Et puis de pas avoir peur. Oh mon Dieu, je vais me faire pas aimer par cette personne si je dis non. Ou,
il va me larguer.
T'sais,
et non. T'es obligé de rester.
Il pouvait me larguer. Ben, y avait une clause aussi comme ça. Donc c'était si un des deux partenaires voulait quitter la relation, avant le terme, il y avait une amende pour la personne qui partait de la relation.
Qu'il a pas payé, non?
Ouais, exactement. À hauteur de 200 francs plus 100 francs par mois qui n'a pas été exécuté. Okay. Et donc il a quitté la relation avant, mais il a repris le pouvoir comme ça en disant bah non, je te paye pas, tu peux pas me poursuivre avec ça. C'est vrai. Donc oui, il aurait pu me quitter, mais quand même il y avait ce côté, enfin le cadre de l'expérience qui fait que j'aurais pu m'imposer, mais je l'ai pas fait.
Après c'est une question complexe dans le sens que même dans toutes les relations on peut s'imposer.
Ouais.
Puis c'est compliqué pourquoi on le fait, pourquoi on le fait pas, les conséquences quand on le fait, comment, enfin bref.
Ouais, bien sûr.
Mais oui, il y a un truc un peu frustrant pour moi, c'est que t'as mis sur papier, je pense ça a dû être très marrant de le mettre sur papier, et ça je serais, si une fois tu publies le contrat, je serais très contente de le lire, vraiment la relation hétéronormative. Et je pense qu'il y a une absurdité à écrire on doit se tenir la main en public, tu dois me présenter tes parents au bout de 2 mois, enfin je pense que c'est assez cool de faire ça. Et après je me dis, le scénario pour moi il est trop prévisible, parce que pour moi c'est malheureusement très prévisible que tu rentres dans une relation hétéronormative et c'est la soumission féminine qui va naître. D'autres choses vont naître aussi, mais ça c'est sûr, malheureusement. Et de deux, pour moi, c'est très prévisible que l'amour peut naître sur la base d'un contrat qui peut être qualifié comme froid parce qu'il démystifie une série de phénomènes, parce que c'est juste des mots sur un papier, quoi. Parce que, et là peut-être on peut faire cette parenthèse maintenant, c'est que déjà avant l'amour romantique, il y a eu l'amour à mariage arrangé pendant des siècles et des siècles, et on sait qu'il y a eu des couples où il y avait de l'amour, il y en avait où il n'y en avait pas du tout. Mais on sait que ça existe en fait, l'amour qui naît d'un contrat.
Et puis surtout, on n'est pas encore sorti de la réalité du mariage arrangé, et puis d'ailleurs arrangé, je trouve que c'est un peu faible, on devrait dire forcé, parce que... je trouve que ça édulcore un peu la chose.
Je crois qu'on a fini nos questions sur le contrat.
Merci Jeanne.
Et donc là, on aimerait parler du fond et des objets et du but en fait de ton expérience, le fond de la chose. J'ai déjà dit avant parce que je me suis emballée, mais toi, Agatha, tu voulais parler du fait de distinguer où est la forme et le fond.
Ce qui nous a beaucoup surprise, je pense que Lerza te l'a dit à un moment, c'est que tu questionnes la possibilité de la naissance de l'amour pour les raisons qu'on a déjà évoquées, à savoir le mariage forcé existe depuis toujours, mais aussi parce que on s'est dit ah mais c'est drôle en fait, de quoi ça parle, tu règles finalement les gestes du couple dans l'objectif de vérifier si les sentiments peuvent naître, en oubliant quand même un paramètre qui à notre sens est important dans un contrat de couple, qui est l'objectif, à savoir historiquement la non-division du patrimoine, la création de l'héritier, la naissance du foyer, etc. Et du coup ça nous a beaucoup questionné, parce qu'on a appelé ça le fond en fait, pourquoi on se met en couple selon les injonctions sociales, et puis la forme, la gestuelle en fait, et tout ce que tu dois faire parce que tu as embrassé le fond et que tu es dans ce contrat, dans le but que j'ai évoqué précédemment. Du coup, on a appelé ça fond et forme un peu, et donc on a défini que toi, tu parlais surtout de la forme et pas du fond. Est-ce que ça te convient, cette réflexion déjà pour commencer par rapport à cette définition de la chose ?
Ouais, je crois que je vois ce que tu veux dire. Après aussi, en fait, il y a de la dimension artistique. Alors oui, ok, j'ai lu 4-5, je me suis obsédée avec Eva Illouz, qui est sociologue et qui parle de sociologie de l'amour et tout ça. J'ai lu des trucs, mais je suis ni chercheuse, ni sociologue, enfin, je suis artiste. Mm-hmm. Et mon but, alors ça prend la forme, la tournure d'une expérience, cette performance, mais ça reste un travail performatif. Et est-ce qu'il y a un but ? Alors oui, enfin tu vois, il y a un propos. mais un but. Je cherchais pas non plus à démontrer un point comme tu veux soutenir une thèse. Je cherchais aussi à provoquer les gens sur leur conception de l'amour. Et ça a plutôt pas mal marché, cette provocation. Ouais. Ça désarçonne beaucoup les gens de parler de l'amour en ces termes-là. Après, j'ai pas de solution, j'ai pas de point à faire avec ça. Et oui, je pense que du coup, il peut y avoir un peu des faiblesses, disons, dans la construction de ce truc, si on le voit comme un projet qui doit avoir une conséquence. Enfin,
C'est très cool que tu parles de ta performance artistique, parce que moi, c'est ça qui m'a surprise, exactement ce que tu évoques. C'est que quand on te dit quel est l'objectif, à plusieurs reprises, tu ris et tu dis « voir si l'amour peut naître ». Et tu dis pas « c'est une performance artistique ». Et du coup, à partir du moment où tu poses ce mot « amour », c'est comme si ça donnait de l'importance et du poids à cette question qui finalement est sociétale, féministe et tout ça, et qui donne envie de le déconstruire et d'aller plus loin. En fait, nous, on en est là. C'est qu'en fait, si tu avais dit « c'est une performance artistique », on aurait pu avoir des discussions tout autres. Mais le fait que tu poses la question de l'objectif et de l'amour, du coup, nous, ça nous a donné envie de creuser, de dire « ok, alors qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'histoire de l'humanité qu'est-ce que tu... Non, tu vois ça a vraiment créé ça, et c'est très cool que tu replaces cette histoire de performance artistique, parce que ça remet les choses à distance, mais c'est quand même intéressant qu'on ait cette discussion. Ouais. Et en plus, nous, on est un podcast féministe, donc on a envie de parler de tout ça.
En fait, je pense là où je dis que j'ai envie de déconstruire ce mythe-là, en fait, c'est plutôt pas moi toute seule en faisant mon petit bail, parce que je suis pas la reine de l'univers, je vais pas faire un nouveau programme de comment s'aimer, mais plutôt en poussant un peu les gens à s'interroger. Et encore, c'est très mégalomane de dire comme je vais les pousser à s'interroger sur la nature de leur couple, ça va peut-être faire changer les choses. Mais en fait, c'était plutôt ça, dans une réflexion collective sur qu'est-ce que c'est le couple, comment on relationne aujourd'hui, d'y réfléchir ensemble autour de cette performance. Mais la performance en tant que telle ne répond pas à cette question. Et moi, j'ai pas la réponse du tout. Ah, aussi, c'était ma première relation de couple. Hein.
C'est vrai.
Oh, wow. C'est pas clair dans tout
notre... mais on a ça en exclusivité au poisson sans bicyclette.
Donc vraiment, je suis très mal positionnée pour faire des grandes leçons sur le couple.
Là, c'est drôle.
Ou alors, mais attends, mais quand tu dis que tu fais des questionnaires de satisfaction, alors tu les fais auprès de qui?
Des gens avec qui... des gens que j'ai inventés.
J'imagine, des gens.
Non, des gens avec qui j'ai eu des relations, mais qu'on peut pas qualifier de couple. On peut qualifier de situation, plutôt.
Alors, c'était pas pour savoir exactement ce que vous avez fait, mais juste te pose la question, parce que du coup, tu les as questionnés sur leur satisfaction à quel propos?
Vraiment comme un questionnaire d'entreprise, quoi. Donc, les communications, l'esthétique, la qualité des rapports sexuels, le rapport qualité-temps, est-ce que vous voudriez remettre ça ou pas? Est-ce que vous avez des commentaires? Enfin,
tu leur as laissé une boîte à idées pour s'améliorer ou...
Ouais, une petite boîte à la fin, ils pouvaient écrire tout ce qu'ils voulaient.
Boîte à suggestions.
Ouais, et en échange de ça, si les personnes répondaient, elles pouvaient prétendre à soit un billet de cinéma pour aller au cinéma avec moi, je choisissais le film qui représentait à mes yeux la relation qu'on avait eue, ou une relation sexuelle.
Oh,
wow. Voilà, c'était marrant.
Est-ce que tu l'as proposé à tout le monde la relation sexuelle, ou t'étais là lui ou elle?
Non, j'ai proposé vraiment à tout le monde. Après, j'ai envoyé les trucs, et comme d'habitude, ça me fait marrer, j'écris mes trucs, je les envoie, et après j'ai les réponses et les trucs, je me dis, ah oui, en fait, ça implique quand même que j'aille jusqu'au
bout. Oh non.
Ouais.
Moi, je vais te reposer la question qu'on te l'a déjà posée mille fois. Pourquoi ce projet?
Je sais pas, alors attends, comment... Il y a tellement de raisons. Déjà, toutes les raisons que j'ai dites, plutôt sur le propos politique, de vraiment un peu pousser le contrat et la relation amoureuse au maximum de son cliché. À un titre personnel, moi, expérimenter un couple, même s'il est complètement artificiel, expérimenter ça. Artistiquement, expérimenter aussi... la performance qui s'immisce vraiment dans le quotidien, et pendant un an, ton quotidien, en fait, est régi par cette expérience, et se mettre dans un truc vraiment intégral comme ça. Ouais, voilà, c'est ça, je crois.
Ok.
C'est un peu des questions... C'est impossible pour moi de répondre à ce genre de questions.
En fait, moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est très personnel, justement.
Bien sûr.
T'as une espèce de... On sent qu'il y a vraiment un intérêt très viscéral chez toi.
Mais bien sûr.
Ouais.
Le rapport que j'ai, ou comment je regarde l'amour, la romance, les couples, c'est tout à fait marqué par l'histoire que j'ai eue avec ça. Et je vais pas faire ma psychothérapie ici, mais en fait, oui, bien sûr que si j'avais eu des expériences autres, en fait, c'est que quand ça coince, qu'on regarde quelque chose avec un œil critique. Et si j'avais eu des relations tout à fait cool, avec des gens sympas, des trucs qui marchent, bah, je me serais peut-être jamais posé la question sur mais qu'est-ce que c'est que le couple et l'amour. Et ben voilà, comme ça n'a pas forcément été le cas, que ça a toujours été un sujet que j'ai regardé un peu de l'extérieur en me disant mais qu'est-ce que c'est que ça, et quelque part c'est pas lié à moi, c'est un sujet vraiment où je suis pas dedans. Et donc là c'était l'idée de vraiment un peu rentrer dedans, et aussi encore une fois parce que ça me faisait marrer.
Oui Mais cool, merci pour ta réponse. Je trouve qu'on a un peu une fenêtre. Merci.
Mais c'est toujours, généralement dans l'art, c'est toujours tellement difficile de un peu répondre à la question du pourquoi. Et je pense que c'est important quand t'es artiste d'avoir un fond, un propos, une façon d'éclairer ton travail, plus que juste un vieux cartel qui bullshit un truc que personne comprend, tu vois. Mais en fait, des fois, c'est aussi. Des fois, je pense qu'il y a beaucoup d'instinct, de juste plaisir en fait à s'exprimer. En fait, c'est de l'expression. C'est une forme d'expression. Des fois, c'est difficile de dire pourquoi tu t'exprimes.
Et puis, tu le dois pas non plus.
Ouais. Mais je peux. En fait, je comprends maintenant ce que tu dis, parce que oui, effectivement, comme je pose beaucoup de propos sociologiques, de trucs un peu théoriques et tout ça, eh ben, forcément, ça met sur ce débat-là. Mais en fait, oui, ça reste une performance.
Ouais. Et ça parle de toi avec tes blessures et avec tes. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai vu un extrait. Je disais tout à l'heure qu'il y a un film de 92 minutes là, qui a été réalisé sur cette. Sur cette performance, enfin sur cette relation de qualité. Et il y a un moment où vous fritez avec Mike et il dit You are obsessed with love. Et ça, c'était très drôle parce que j'étais justement, on était en train de travailler avec Lirza, on réfléchissait aux questions qu'on avait envie de te poser, comment on avait envie de mener le débat, comment on t'emmenait là-dedans. Et d'un coup, j'ai eu l'impression d'avoir une espèce de révélation de choses que je sentais déjà, de ce truc de finalement, on ne parle que de Jeanne Speter. Et c'est ça un peu qui a brouillé les pistes pour nous au départ. Comme tu cites cette autrice souvent et d'autres dans les interviews, en fait, nous, on a envie d'aller au bout du truc. On a envie ce soit un manifeste féministe et qu'il y a ta performance artistique. Et on se dit, et ça, ce sera la fin, on en parlera, mais se dire, eh ben, est-ce qu'il pourrait y avoir un plus, et se dire, est-ce qu'on peut en faire un manifeste féministe, quoi.
Ouais. Et en fait, c'est là où moi, je me sens pas les outils de le faire. Parce que j'ai pas le bagage académique ou presque pas vraiment l'envie non plus. Enfin, dans la théorie, oui, mais ouais, c'est ça. Je pense que je me sens pas, en fait, de dire, ok, alors maintenant, voilà, je vais faire un bouquin et puis je vais dire comment il faut s'aimer et blabla. Mais oui, je vois ce que tu... Et oui, en fait, c'est ça. Je trouve que cette phrase du documentaire qui est... D'ailleurs, j'ai pris aussi des extraits des vidéos qu'on a faites qui sont dans le spectacle, dans la performance Coralio créative, qui sont réenactées, en fait. Et cette scène, elle est hyper... Elle est centrale, quoi.
Ah ouais, elle est hyper forte.
Et oui, et c'est vraiment... Effectivement, c'est juste... C'est devenu une obsession depuis 2019, donc ça fait depuis 4 ans. C'est un peu un thème, d'obsession.
En fait, c'est presque le début de la suite. De la suite de ton travail. C'est un peu ce truc, ça pourrait s'appeler comme ça, le titre d'année de travail de Jeanne, quoi.
Ouais. Obsession with Love, 2019-2025.
I am obsessed with love.
Qui regroupe tous les trucs dedans. Ouais, c'est ça. Okay.
Enfin, j'avais juste encore une question au sujet de l'amour. Je voulais te demander, mais c'est un peu dur. T'as le droit de me dire joker, mais en fait, qu'est-ce que c'est le sentiment amoureux dans ce que tu voulais voir naître? Qu'est-ce que c'est pour toi, l'amour, en fait?
Je peux répondre quelque chose. Ce que je voulais, ou ce que je pensais peut-être qu'il était possible à atteindre comme une forme d'amour, c'est vraiment ce côté de lâcher prise, d'un moment en dehors de soi, tu vois. Pour moi, il y a ça vraiment dans le sentiment amoureux de d'être un peu extérieur à soi, mais pas d'une façon méta, vraiment un truc où, comme se lâcher un peu, comme une espèce de lâcher prise, quoi. Et peut-être, je me suis dit, ok, peut-être à un moment, tout ce contrat, toutes ces règles, elles vont devenir caduques, et peut-être, ça c'était un truc, je me suis dit, ok, peut-être ça pourrait être une forme de sentiment amoureux, ou en tout cas de lâcher prise. Et d'aller plus dans les émotions.
Je trouve ça trop beau ce que tu dis. En fait, j'ai une image de toi maintenant, de quelqu'un qui chasse un idéal et qui tente des formules magiques.
Ah non, mais c'est...
Un peu alchimiste, tu vois. Ah, genre, je fais un contrat et peut-être ça va marcher. Je trouve ça trop beau.
C'est une... quelque part, c'est froid et rationnel, mais finalement un peu midinette en même temps, tu vois.
Moi, l'image que j'ai, plus que Midinette, c'est vraiment un peu alchimiste. Ouais, je vais tenter une formule et peut-être ça va me donner de l'or.
Non, mais si on n'a pas un peu ça dans la vie, c'est terrible en même temps. Franchement, heureusement qu'on a ce truc, même si certains philosophes pensent que l'illusion et l'espoir sont vains et que c'est le synonyme de malheur. Mais on a quand même le droit de se dire qu'il y a des trucs qui peuvent nous arriver, qui sont un peu waouh. Et puis en dehors des scripts écrits et des choses qu'on sait déjà ou des choses... Ouais.
Mais c'est trop intéressant, parce que je m'attendais pas à ta définition d'amour, et on pourrait faire en effet un épisode là-dessus.
Non, mais c'était juste parce que je lisais tout sur l'amour de Bell Hooks, et elle dit déjà que aimer, c'est agir, être amoureux, c'est pas un état, c'est une action. Elle cite une autre autrice, et elle a trouvé ça fort de le dire comme ça. Et je trouvais que c'était intéressant par rapport au travail que t'as fait, parce que en fait, vous êtes dans l'action de l'amour. Ouais, et puis aussi, elle définit un certain nombre d'ingrédients, le soin, l'affection, la reconnaissance, le respect, l'engagement, la confiance, la communication honnête et ouverte. Et ça, c'est les ingrédients de l'amour. Et je me suis demandé, est-ce que dans tous ces ingrédients, ils avaient tous été respectés ? Parce que peut-être que s'il y en a un qui a manqué, il faut recommencer. Il n'y a pas eu d'engagement.
Bah si, on a signé un truc.
L'engagement, c'est le truc qu'il y a eu.
J'ai l'impression que tous les points étaient légiférés. Après, bien sûr.
Bon, on appelle Bell Hooks pour lui dire... Tu t'es gouré, il manque.
Elle est décédée en 2021.
Oh, j'ai pas suivi, je savais pas, je vais pleurer.
Je suis désolée, je t'ai balancé ça comme ça.
Oui, non,
à l'antenne.
Parce que je l'aime beaucoup aussi.
J'arrête de parler.
Si je reviens sur ta proposition, Agatha, c'est de parler de fond et de forme. Une des questions qu'on avait concernant la forme, du coup. On se questionnait sur le fait que la finalité du contrat, c'était soit vous décidez de vous marier, soit vous décidez de vous séparer pour ne plus jamais vous voir. Pourquoi de cette manière-là ? Ouais, vas-y.
Oui, j'adore cette forme. Bon, il y a deux raisons. Déjà, une, parce qu'en fait, c'est marrant d'avoir un challenge et que ce soit vraiment radical. Et peut-être, on fait une année ensemble pour ne plus jamais se revoir. Donc, il y a un peu un truc, il y a un peu une urgence, tu vois, que la fin peut marquer quelque chose vraiment. Ou alors le début d'une relation hors de tout contrat. Et alors, qu'est-ce qu'elle sera, cette relation ? Hyper étrange aussi. Genre, si on avait décidé de se marier et de continuer ensemble, ouais, tu sais, comment tu fais ? Et l'autre, ben, c'est aussi parce que c'est un schéma que j'observe tellement autour de moi et que j'ai l'impression qu'on est assez peu capable encore de passer d'une relation à caractère romantique à autre chose. Alors oui, ça existe. Moi aussi, j'ai des expériences avec des gens dont j'étais amoureuse ou quoi, avec qui maintenant j'ai une relation super et amicale et tout ça. Bien sûr, ça existe, je dis pas le contraire, mais je trouve que c'est très répandu vraiment ce truc de pour toujours ou jamais. Et le côté de, enfin voilà, comme on disait tout à l'heure, un des mythes du romantisme, c'est que ça dure toute la vie. Ouais. Et si ça dure plus toute la vie, c'est tellement douloureux, c'est tellement dramatique que c'est la coupure totale avec la personne. Et je voulais un peu reproduire encore ça.
Ouais, et puis je comprends ce côté où ça ajoute de la tension à l'expérience. Ouais. Parce que si à la fin, on peut décider de continuer de se voir encore 3 mois.
Ouais, tu vois. Et puis aussi, ça fait que la performance est finie, mais elle agit encore sur nos vies.
Sur vous, oui. Est-ce que tu penses que ça aurait pu être intéressant de pas mettre une fin semi-traditionnelle comme ça.
Oui, et de voir en fait qu'est-ce que ça génère chez nous. Et, oui, ça aurait pu être intéressant, mais de toute façon, l'expérience, elle était biaisée dès le départ, en fait, du fait que je gérais cette expérience, que j'avais donc toujours un point de vue complètement méta sur la situation. Et puis, pour être dans un moment, pour pouvoir avoir des émotions et tout ça, il faut justement se lâcher. C'est pour ça que je parlais de ce truc-là, de l'amour, est-ce que ça pourrait être ça, vraiment ce moment d'abandon presque. Et c'était impossible dans cette performance. J'ai remarqué assez vite que quoi qu'on fasse, je pourrais jamais complètement lâcher prise. Et donc, oui, même si on avait fait un peu une fin plus ouverte ou quoi, je pense pas que ça aurait changé grand-chose.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est le problème du concept, c'est que toi, tu pourras jamais t'abandonner, en fait, parce que c'est toujours méta.
Oui,
enfin, ça l'est toujours, j'imagine, pas tout le temps, mais...
D'ailleurs, la vraie issue montre ça, non ? Parce qu'en fait, finalement, Mike, il demande, si je dis pas de bêtises, d'arrêter plus tôt. Ouais, tu l'as dit plus tôt. Parce que justement, c'est intenable pour lui ou...
Ouais, parce que lui est dans un autre rapport, en fait. Lui, il est dans la relation avec moi. Moi, je suis dans la relation avec lui, mais toujours avec une caméra extérieure. Lui, il est là pour un rapport humain, qui est intéressant s'il est enrichissant, s'il est sympa et tout ça. Moi, je suis là pour le rapport humain et aussi pour le but supérieur de ma performance. Ouais. Donc forcément, si lui est là que pour un rapport humain, qui au bout d'un moment, on se rend compte, a priori, ça marche pas trop nous deux, il part, forcément. Et c'était très bien qu'il le fasse, vraiment. Moi, je l'aurais jamais fait parce que j'aurais voulu aller au bout du truc, bien sûr. Mais en fait, c'était nécessaire qu'il le fasse.
Ok. Ce que j'aurais moi trouvé trop intéressant, déjà de faire l'expérience de penser, en fait, de mettre en question la forme, c'est qu'on vit dans une société qui est ultra scriptée. Le couple hétéronormatif, c'est un script ultra classique. D'ailleurs, ton expérience le démontre, mm-hmm. t'as pu faire un contrat quoi, basé sur ça, mais on vit tous et toutes un peu dans l'illusion que c'est pas le cas, qu'on vit toutes et tous des expériences ultra uniques, mais non, mais j'ai juste croisé en bois de nid, puis oh, par hasard j'étais attirée, puis par hasard ça a fait que j'étais amoureuse, puis par hasard j'ai rencontré sa mère, et par hasard on a un bébé. Enfin tu vois, j'ai l'impression qu'on vit dans cette illusion-là en fait, que les choses nous arrivent parce que c'est spécial ce qu'on vit, alors que c'est juste un script mm-hmm. social. Enfin, ce que je trouve intéressant quand je fais l'expérience de penser, c'est que si du coup tu mets tout ça sur papier comme tu l'as fait, et tu vois ce qui naît, t'es là, bah en fait, c'est juste un script social, puis il est à chier, et puis en fait, le concept, il marche pas. Ça aurait été cool, tu vois.
Ouais.
Brûlez-le. Oui, c'est ça, on crame l'hétéronormativité, quoi.
Mais oui, mais en fait, le script, il est tellement fort que, ben, comme on parlait tout à l'heure d'aliénation, quoi, même si ouais. tu te rends compte du script, tes désirs même sont scriptés, finalement, ou tes rêves, enfin, pas complètement, enfin, on n'est pas non plus dans un déterminisme absolu, mm-hmm.
Mais beaucoup, quand même.
Bah ouais. Ouais. Et même si tu réfléchis, même si tu dis, ah, peut-être, j'aimerais bien désirer autre chose, ou tu ouais. vois, parce que j'ai beaucoup de copines ou de copains qui, même s'ils en sont conscients et conscientes, ils n'arrivent pas à sortir de ce schéma, parce que aussi c'est une histoire de narration, de représentation, on a très peu de représentations autres, donc bien sûr on garde le chemin qui est connu, c'est sinon c'est une charge mentale perpétuelle de en fait s'inventer un nouveau chemin, c'est
ouais,
la guerre,
c'est ostracisant, c'est, ouais. c'est dur, hein.
Bah ouais, oui.
C'est dur,
oui, c'est vertigineux en fait ouais. de se rendre compte à quel point on n'est pas maître de notre destin, et que ouais. des fois il y a des choses sur lesquelles on pourrait ouvrir les yeux, même des petites choses, et qui sont tellement dures à avaler qu'on préfère ne pas faire le travail de déconstruction. Mmh, mais t'as mmh, raison, quand il n'y a pas de modèle, ça veut dire que tout le métier est sur l'établi, c'est pas du tout ça l'expression. Toute la poire est dans la pomme, et le verre est dans le nid.
Ouais, ouais.
Vous voyez ce que je veux dire,
ouais, tout à fait. Est-ce que tu fais une attaque
je fais une attaque. Mais je cherchais une expression que je n'ai pas du tout trouvée, donc arrêtons les idiomes populaires, et disons qu'on doit bosser tout seul.
C'est ça.
Et qu'en fait, c'est beaucoup de travail, bah et oui. que c'est pas simple. Ouais. Et qu'on a quand même aussi d'autres prérogatives dans la vie qui sont de se lever pour
c'est
aller bosser.
C'est pas toujours bien accueilli de la part des autres, en fait, de faire les choses différemment, et tu te retrouves vite seul, et tu te retrouves... Ouais, c'est dur, je trouve.
Pardon, ce que je voulais du coup dire...
On est parti entre deux, t'as fait un AVC.
Ça nous a fait beaucoup rire, du coup, on a du mal à se reconcentrer.
Ah oui, d'ailleurs, tu le dis, dans un des entretiens nombreux que t'as fait, il y a quelqu'un qui te parle du fait que c'est un peu antithétique de parler de consentement de relations sexuelles alors que c'est sur le contrat. Et toi, tu réponds un truc que je trouve très pertinent, tu dis, de toute façon, on est dans cette situation antithétique dans tous les couples.
Oui.
Parce qu'en fait, il y a tellement cette pression sociétale que oui, il faut coucher ensemble au minimum 4 fois par semaine, sinon c'est un couple de merde.
Ouais.
Que tout le monde se retrouve à faire des choses dont ils n'ont pas forcément envie, ou ils se convainquent qu'ils en ont envie. Et je pense que nous, les femmes, au moins, on parle beaucoup de ça. Mais je pense que ça doit exister aussi chez les mecs, et ils n'en parlent pas assez, parce qu'il y a cette injonction qu'ils doivent toujours avoir envie de baiser.
Ouais, ouais.
Bah, bien sûr que c'est pas forcément le cas.
D'ailleurs, même quand ça leur arrive, ils n'ont pas envie, mais c'est tellement dur pour eux qu'ils n'arrivent même pas à leur dire à leur compagne de j'ai pas envie. Parce qu'ils ont peur qu'elles se disent oh là là, mais il est pas viril, mon mec.
Ouais, c'est ça. Donc j'ai pas envie de mettre le spotlight sur les mecs, hein, mais je voulais juste dire que je pense que ça arrive aux deux, et on sait que ça arrive aux meufs. Et déjà, on sait que statistiquement, genre, les meufs ont pas de plaisir durant la pénétration pénis dans vagin. Beaucoup de meufs n'ont genre juste aucun plaisir. Je crois qu'il y a des statistiques affreuses dans l'épisode avec Romy où beaucoup de femmes disent ouais, une relation sexuelle satisfaisante, c'est une relation où j'ai pas mal.
Ouais.
Donc
yes,
c'est rassurant et
ouais, donc en fait
donc on n'est même pas au niveau de l'orgasme là, on n'est pas en train de parler
non.
de ça,
c'est non. pas avoir mal quoi, tout à fait, on suit des scripts quoi qu'il arrive.
Ouais, mais tout, en fait tout le processus autour du consentement et tout ça, il était hyper intéressant, parce que justement j'avais mis une clause de consentement en me disant ah super, tu vois, on va pallier un truc, et en fait très vite ouais je me suis rendu compte qu'il y a aucun consentement possible lorsqu'on a établi une règle de 4 rapports. Et après je dis, mais en fait ce contrat, c'est le contrat social de plein de couples.
Oui, oui, c'est tout à fait juste, ouais.
Et en fait oui, on peut parler de consentement, mais ou de couple ou pas couple, de, tu vois, tu fais un date ou un deuxième date ou je sais pas quoi, et puis il y a un peu cette pression de enfin c'est aussi un script où quand arrive le sexe, et oui on peut consentir, puis après maintenant c'est un peu aussi cette notion de consentement, je me dis mais consentement c'est quand même aussi, c'est pas ouf. Ça veut dire, genre, tu dis, ouais, d'accord. Après le consentement, il y aurait justement le truc beaucoup plus actif de dire qu'on désire plutôt que de consentir. Consentir, c'est consentir au désir de l'autre, hein. C'est
oui,
dire,
c'est proposer,
oui,
disposer, quoi. Ouais.
Mais c'est ce que dit Geneviève Fraisse, je crois, c'est une sociologue de féministe.
T'allais dire Geneviève de Fontenay.
Geneviève de Fontenay disait ça beaucoup aussi. Elle, le consentement, c'était son...
Trop chaud.
Sa marque de fabrique. Non, Fraisse, c'est une historienne du féminisme et qui dit qu'elle aimerait qu'on arrête de parler de consentement parce qu'il y a justement cette notion de consentir, ça veut aussi dire céder.
C'est ça, c'est passif.
Et en fait, elle, je me souviens plus du terme qu'elle veut mettre à la place de consentement, mais c'est justement un verbe beaucoup plus d'action. Et en fait, bon, on est au début du truc, mais on a tellement sorti consentement à toutes les sauces que bon, je pense que le but,
c'était
pas
nécessaire,
faire,
tu vois, à un moment, ouais. Enfin, il fallait juste parler du consentement. En fait, c'était sûr. Tellement peu présent dans
n'importe quel mot aurait fait l'affaire. Ouais. Banane. Ok, on prend. La dernière étape, c'était de la performance artistique et la performance féministe. Mais en fait, on en a vachement parlé déjà. Et puis, c'était très cool que ça intervienne naturellement.
Parce que moi, je suis pas capable de tenir un fil rouge aussi.
Non, parce que Lirza est libre. C'est une femme libre. En fait, il y avait quand même encore quelques questions qu'on voulait te poser. Mais du coup, on va aller sortir de la question de la performance artistique ou féministe. Mais il y a quand même un truc qui revient très souvent quand on lit les autrices féminines. Je vais dire autrices parce que je m'en fous, j'ai le droit. Et qui disent, notamment celles qui analysent la naissance, les couples et l'amour et le mariage, etc., qu'en fait, on est programmé pour tomber amoureux des gens. On peut pas tomber amoureux, enfin, on peut pas. Bien sûr qu'il y a des exceptions, quelqu'un va me dire, mais bien sûr que si, il y a des énarques qui sont mariés avec des garagistes. En réalité, il y a quand même quelque chose qui s'appelle l'homogamie sociale.
Oui, c'est marrant.
Et qui est quand même vérifié dans un très grand pourcentage des cas. Ça veut dire que, tout simplement, on se met en couple avec des gens qui ont le même niveau social, culturel, etc. que nous. Probablement qui ont eu une éducation assez proche aussi. Alors, bien sûr que j'imagine que ça a été déjà tellement difficile de trouver Mike que rajouter ce critère, ça aurait été difficile. Mais c'était, ça nous a surprise que tu le mettes pas dans les critères quand même. Parce que si je dis pas de bêtises, il est garagiste.
Il est vendeur dans la concession de voiture de son père.
Ok, donc il est vendeur dans la concession de voiture de son père, ce qui, d'un point de vue purement selon les critères de la société, n'est pas le même niveau socio-culturel que le tien. Et que du coup, ben, moi, ce que ça me donne envie de dire, c'est « Et si on recommençait avec un artiste ?»
Complètement. Et ben ça, c'est hyper intéressant. Je me suis dit, cette performance, en fait, il faudrait que je la refasse tous les 4-5 ans, si je suis encore célib, tu vois, pour voir, en changeant, en manipulant les différents critères de sélection de la personne, ou est-ce que ça fait bouger des lignes, quoi. L'homogamie, ouais, c'était un concept dont j'étais consciente avec les lectures de sociaux et tout ça. En fait, aussi, cette relation a vraiment montré à quel point c'est très fort, l'homogamie, et ça crée des compréhensions ou des incompréhensions entre les gens. Parce qu'on peut aussi parler d'homogamie un peu plus loin, même dans les cercles amicaux que t'as tout ça. Parce que c'est des personnes que tu rencontres dans le milieu où tu grandis, tes études, donc... Mais en fait, je pense que ça aurait été beaucoup moins intéressant avec quelqu'un si on avait eu les mêmes profils sociaux, culturels et tout ça.
Pourquoi ?
Bah, y avait justement ce truc où tu dois vraiment activement trouver un langage. Il y a des en plus on parle pas la même langue, donc on parle un anglais approximatif déjà, enfin tu vois, la communication, elle est déjà complètement biaisée, et en plus de ça on parle pas la même langue de ce qu'on aime, de ce qu'on veut, de ce qu'on rêve. Bah c'est intéressant aussi de se confronter à des gens peut-être t'aurais jamais rencontré. Et on a un peu cette illusion, genre avec les applis de rencontre, ah bah voilà, on rencontre des gens random. Oui, mais en fait c'est pas les gens avec qui on va s'accrocher.
Oui. Parce que pas tout à fait random, ouais.
Parce qu'on se comprend pas non plus complètement. Oui. Et ben là, c'était un exercice de voilà, il faut se comprendre. Mais très vite, je me suis dit, ah oui, l'homogamie, effectivement. J'avais eu un mentorat avec Eva Ilouz qui avait dit il est comment ? Décrivez-le-moi. Donc j'avais dû décrire Mike, c'était bien emprunté, tu vois, décrire quelqu'un en 4-5 mots. Et puis elle avait dit non, ça ne marchera pas. Vous avez des habitus socio-culturels beaucoup trop différents.
Amuse-toi bien, même.
Donc ça. Tu vois, pour revenir à ce que tu disais au début sur... c'est pour ça que je m'étonne quand tu disais on sait comment ça va finir, oui, ça va marcher, l'histoire nous a prouvé que le contrat peut faire naître les... Ben justement, a priori, bah, pas trop.
Bah, du coup, parce qu'il n'était pas... il n'y avait pas d'homogamie sociale, moi, je pense. C'est pour ça.
Ouais, donc toi, tu postules qu'avec un truc plus cohérent...
Ça aurait marché.
Bah oui, mais c'est moi, pour ça que je te dis, refaisons. Comme si j'allais faire quelque chose. Jeanne, retape-toi un an avec un inconnu, mais s'il te plaît, de ta classe sociale.
Tu fais mon support psychologique, s'il te plaît.
On dit plutôt, on raisonne en creux. Mm. On était sûr que ça marcherait pas, parce que cet élément-là n'était pas... Mm-hmm. Presque sûr que ça marcherait pas, parce que c'était pas respecté.
Peut-être vous vous séparez quand même à la fin, mais il y a plus de... amour qui serait né.
Ouais, où il y a plus de proximité,
oui.
ou
quelque chose qui serait né, ouais.
Ouais, peut-être. Et encore une fois, tu vois, est-ce que c'était vraiment le but de faire comme un petit scientifique, un espèce d'artefact d'amour en pipette, quoi.
C'est nous qui sommes très curieux.
Ouais. Et en fait, moi, je pense que d'un point de vue artistique, Je suis beaucoup plus contente de l'expérience qui fonctionne pas comme prévu. Ça, pour moi, ça aurait été giga boring si on avait vraiment tout suivi, si tout s'était bien passé, s'il y avait aucune rupture de contrat. Justement, le côté un peu rebondissement et drama.
Ouais. Mais t'imagines si ça avait été le contraire, si vous étiez tombé follement amoureux en ayant respecté tous les critères, aussi l'apprenti sorcier. T'imagines, ça te donne l'impression que... Oh, je suis la maîtresse marionnettiste de l'univers. J'ouvre une agence de rencontres, finalement. C'est beaucoup plus lucratif que l'art.
Ou la quantité de gens qui auraient répété l'expérience.
Ah, c'est clair.
On fait un contrat.
Il y en a qui m'ont demandé, j'aimerais le contrat pour... Je dis, ah, mais surtout pas. Mais ne faites... Mais vous comprenez
je recommande pas.
Oh, après, je me dis, mais je suis pas très claire, des fois. Un peu.
Mais ça existe, une émission sur M6. Ça s'appelle « Marié au premier regard ».
Ouais, ouais.
C'est exactement ça.
Ah oui, ils se marient tout de suite.
Exactement. On analyse tous les caractères et... Tous les intérêts des différents hommes et femmes, leur milieu socioculturel en fait partie, ce qu'ils aiment physiquement chez les uns, chez les autres. Et après, ils se rencontrent et ils ont quelques semaines pour se marier. Alors, j'ai pas lu de stats et d'articles et tout, mais c'est juste que ça me fait penser à ça, ce qu'on est en train de dire. C'est quand même, les gens, ils vont jusqu'à se marier, quoi. Et puis, je crois qu'il y a des couples qui ont...
Qui fonctionnent.
Ouais. Mais oui, mais en fait, c'est ça, c'est ce que vous disiez, c'est vraiment le truc de... Ouais, l'amour, c'est aussi un conditionnement, et puis effectivement, on tombe amoureux et amoureuse des personnes dont on est supposé tomber amoureuse. Je suis assez d'accord, donc oui, effectivement, peut-être. Ah, ça me donne envie de refaire.
Ah oui, on t'encourage. Attends, viens ça, une autre question.
Moi, j'ai une autre proposition. Moi, ce que je trouverais trop cool, c'est que tu fasses l'expérience, tu fasses toujours.
Parce que nous, allez,
ça s'appelle la catharsis, hein. Je fais les choses pour vous, après, ne me demandez pas pourquoi,
exactement.
S'il vous plaît.
Et ça nous fait beaucoup de bien, merci beaucoup, Jeanne.
Non, mais de faire ce genre d'expérience avec une femme. Et je vais élaborer. Enfin, on parlait d'homogamie sociale. On est toutes et tous éduqués à l'hétérosexualité. Mmh. Maintenant, je trouve ça cool parce qu'on est dans une période, en tout cas dans les cercles queer et féministes, où on peut dire que l'hétérosexualité est une éducation. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de l'hétéronormativité. Pendant longtemps, on ne pouvait pas dire ça parce qu'il y a tellement un trauma collectif sur clairement des crimes contre l'humanité qui ont été faits avec les thérapies de conversion envers les personnes gays, qu'on a beaucoup insisté sur le fait que l'homosexualité est innée. Arrêtez les thérapies de conversion et ça reste vrai. Donc c'est inné chez beaucoup de gens, of course, et puis c'est même pas la question, on s'en fout, inné, pas inné. Il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent fucking faire, mais toujours est-il qu'on est éduqué à l'hétérosexualité dans le sens que tu vois des gamins dans la rue, genre des fois j'ai vu ça de mes propres yeux quoi, petit garçon, petite fille, ils sont choux ensemble, ils font un beau couple, alors que le gars il va peut-être être gay et la meuf va peut-être être lesbienne, mais on leur laisse même pas la possibilité. Et moi je pense que si on nous laissait, si on nous éduquait pas avec cette hétérosexualité, on serait toutes et tous beaucoup plus fluides au niveau de nos orientations sexuelles, moi la première. Moi je sais que ça m'est déjà arrivé d'être attirée par une meuf, et si j'avais pas été éduquée dans une société hétéronormative, j'aurais fait beaucoup plus de trucs avec les meuf jusqu'ici. Ma vie n'est pas terminée. Et en fait, du coup, je trouverais intéressant de faire ce genre d'expérience avec une femme. Mais c'est dangereux.
C'est chaud.
À cause des fachos, parce que justement, parce qu'ils vont dire, t'as vu, la thérapie de conversion fonctionne.
L'orientation sexuelle peut être un choix, donc ça peut être un choix de plus être...
Exact. Mais moi, je ferais ça plutôt contre l'hétéronormativité et de dire aux gens, mais en fait, oui, tout d'un coup, ça peut arriver. T'es vachement attiré par la meuf, quoi.
Mais ça, c'est vraiment un sujet giga touchy, et j'ai vraiment du mal à en parler aussi. J'en parle pas mal avec un ami, les lesbiennes politiques, quoi, mais dans la suite de Wittig, qui dit... Le féminisme, c'est la théorie, et le lesbianisme, c'est la pratique.
Oui,
ouais, c'est comme Virginie Despentes qui décide de devenir lesbienne parce qu'en fait, on en a marre des mecs, quoi.
Mais queen, enfin, tu vois, vraiment. Et en fait, je pense que le choix que tu peux faire, il réside plutôt dans le fait de sortir de l'expérience acquise et voir en fait si c'est un truc pour toi. Mm-hmm. Après, ben voilà. Après, c'est encore toute la porte des hétéros curieuses qui utilisent un peu d'autres personnes comme des sujets d'expérimentation. C'est pas ok non plus. Non. Enfin, tu vois, comment on fait ? Et ouais, je pense que ça passe par l'éducation beaucoup, de laisser ouvert beaucoup plus aux enfants, en fait.
Et puis, est-ce qu'il faudrait pas changer les termes du contrat ? Parce que une relation entre deux femmes n'est pas régie par le même.
Ça pose cette question-là. Je suis d'accord.
En fait, ça ouvre tellement de nouvelles réflexions. Et puis, effectivement, il y a tout le côté touchy. Politique, comment ça peut être récupéré et comment ça peut être interprété, ça t'oblige de sécuriser un certain nombre de choses pour justement être pas dans un truc un peu pourri.
Tu pourrais prendre un schéma ultra hétéronormatif sur sur deux hommes ou deux femmes et voir comment ça pourrit peut-être leur life. Parce que ça n'a pas de sens. À un moment donné, t'es deux meufs et il y en a une qui fait le ménage et l'autre va bosser. Elles vont être là, mais ça va, la vie peut-être ou bien. Enfin,
mais oui, effectivement, dans ce sens-là, c'est pas mal.
Ça peut être vraiment marrant. Ça me fait penser à un enregistrement live de Victoire Tuaillon avec Juliette Drouard. Et il y a un mec gay dans la salle qui intervient et il dit, en fait, moi aussi, j'ai été ultra imprégnée par l'hétéronormativité parce qu'en fait, la vie des couples gays devient comme des couples hétéronormatifs avec toutes ces notions de qui est dominant, qui est passif, des trucs à la
qui fait la femme, ouais.
Qui fait la femme, qui fait l'homme, qui pénètre, qui est pénétré, enfin des trucs genre ultra aberrants qui ne correspondent pas à la vie sexuelle forcément quoi, des couples gays. Et en fait ça a fini par pourrir aussi des relations, à mettre des dynamiques de domination dans des couples hétéros. Du coup je trouvais ça intéressant, mais c'est tout un autre sujet.
Bah non, pas tant, parce que c'est encore une fois vitique dans la pensée straight. L'hétéronormativité c'est pas une inclination romantique ou sexuelle, c'est un programme politique.
Oui.
Et donc tu peux être dans, c'est ce que je voulais dire aussi en disant oui ok, alors s'ouvrir à un imaginaire autre que hétéro, mais aussi ne pas fantasmer cette espèce de truc en tant que meuf plutôt dans des orientations hétéro ou des choses comme ça, de se dire ah ce serait tellement plus simple avec des meufs. Non, en fait,
oui,
déjà
oui.
Avec des meufs tu peux reproduire des schémas ultra hétéronormatifs et c'est pas parce que c'est une meuf qu'elle est moins problématique, qu'elle a pas été aussi éduquée dans un truc ultra patriarcal et qu'elle reproduit pas
oui.
Des trucs de merde.
Mais peut-être qu'elle gagne plus d'argent que toi, donc ça fait une domination à ce niveau-là. Ou
donc ouais. Ouais, ça je trouve hyper intéressant de voir oui. L'hétérosexualité non pas comme une orientation, mais comme en fait un régime, un script, ouais, un régime politique.
Ouais, tout à fait. Mais si tu veux voir si l'amour peut naître entre
peut-être. Donc là, ça me fait, j'ai encore deux nouvelles versions à faire.
Ouais, alors ouais, celle-là, il faudrait bien la bosser. Hein. On se revoit, on en parle.
Avec plaisir.
Mais bon, effectivement, la conclusion, elle était difficile à écrire en amont parce qu'on savait pas trop ce que t'allais nous répondre. Puis finalement, c'était hyper intéressant la discussion comme elle a été menée. Moi, ce que j'ai un peu retenu, c'est... je sais plus quel sociologue dit que vivre un couple aujourd'hui, c'est jouer une comédie qui est déjà écrite. Et donc, en fait, ce qui est très drôle, c'est que pour moi, cette performance, c'est un peu une mise en abîme de ce qu'on vit au quotidien dans nos couples hétéronormatifs, etc. Qui t'échappe même parfois, parce que tu l'as dit tout à l'heure, ce moment où tu te rends pas compte que tu te tais toi-même alors que ou tu dis pas mais écoute-moi plus, intéresse-toi à ce que je suis en train de dire, ma parole a de la valeur, etc. Et tu sais pas vraiment pourquoi, mais ça se fait comme ça, alors même que t'es dans un couple fictif. Et en même temps, comme au cinéma, bah, la fiction, c'est la réalité, quoi. C'est la représentation de la réalité. On a l'impression que ça nous emmène à des endroits. Et donc, cette mise en abîme de la comédie du couple dans cette comédie jouée dont t'as écrit le script, dont en fait, t'as pas du tout écrit le script parce que t'as juste pris un script préexistant. Et ben, je trouve ça hyper intéressant, en fait, d'arriver à cette réflexion-là. Et puis moi, c'est à peu près ce que j'avais envie de dire.
Ouais, moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que Agatha a ramené Bell Hooks, et puis après, du coup, j'ai pensé à elle. Et en fait, du moment que tu dis qu'il y a plein de choses hétéronormatives qui n'ont pas forcément été mises dans le contrat, typiquement les tâches ménagères ou des choses comme ça, ça m'a fait penser à Bell Hooks, qui dit « il ne peut pas y avoir d'amour sans justice ». Et peut-être dans ta formule magique d'alchimiste, est-ce que c'est ça qui manque? Après, ça ne veut pas dire que tu auras l'amour, parce qu'il y a plein de mecs qui ne vont pas du tout le prendre bien. Donc, ça va engendrer autre chose, mais... peut-être de l'amour. C'est une phrase qui me touche beaucoup, en fait. Il ne peut pas y avoir d'amour sans justice. Moi, dans ma vie tous les jours, où je me bats un peu de manière constante avec plein de mecs autour de moi, mon mec, mais aussi des hommes qui sont censés m'aimer, t'es là, en fait, tu ne te rends pas compte que ce n'est pas que je me suis réveillée ce matin et j'ai lu un article féministe et je me suis chauffée, donc je te fais chier. Non, c'est que je ne me sens pas aimée, en fait. C'est que si tu n'en as rien à foutre de l'égalité, c'est que tu n'en as rien à foutre de ma gueule. Et du coup... moi, j'avais envie de fermer avec la phrase « il ne peut pas y avoir d'amour sans justice », en fait.
Ouais.
Je sais pas ce que t'en penses, Jeanne.
Ouais, je peux faire une toute petite parenthèse aussi. En fait, c'est une réflexion sur l'amour romantique aussi, dans le sens relation amoureuse de couple et tout ça, mais c'était aussi pour ouvrir, de dire, en fait, il y a tellement de formes d'amour, et par exemple, les relations amicales, enfin, tu vois, quelle position elles ont dans la hiérarchie des relations.
Ouais.
Et très souvent, c'est le couple qui prend toute la place. Ouais. Et en fait, est-ce qu'on peut pas aussi revaloriser les autres formes de relations qu'on a, et ben peut-être y mettre plus de soins,
oui.
Plus de... Enfin, tu vois,
oui.
Est-ce qu'on peut pas justement un peu ouvrir cette notion d'amour à autre chose que la relation de couple?
Ouais, ouais, dans ce sens-là, romantique, pour qualifier ça. Quoi.
Ouais, ouais.
Ok, ouais, je comprends. C'était comment cette discussion avec nous?
C'était super.
C'est vrai, cool.
Mais en fait, je dois dire, ça change beaucoup. Qu'on peut prendre le temps et qu'on peut développer des concepts,
ouais.
Et que c'est pointu et que vous avez fait des recherches et que vous avez des références et que c'est pas juste comment c'était le sexe.
Ça, c'était assez frustrant, les articles. Ouais.
C'est beaucoup plus sympa, un peu, d'être avec des personnes qui sont pas juste en train d'essayer de faire un article qui va un peu faire des clics. Et,
non, parce c'est que cool. Nous, des clics, on d'aller a renoncé il y a longtemps au rêve. Non, je rigole.
Non, on va pas...
on a une audience. Cool, merci beaucoup d'être venu.
Ben, merci à vous.
En tout cas, pour nous aussi, enfin, en tout cas, pour moi aussi, c'était un plaisir, cette discussion, qui a pris un tournant assez différent, parce que finalement, tu réfléchis, on discute toutes les deux, on pose des questions. C'était un plaisir d'avoir cette discussion avec toi, vraiment.
C'est la première fois qu'on est, entre guillemets, mandaté pour faire un épisode. Et du coup, quand on ne te connaît pas avant... Et en fait, ça fait beaucoup de voir la personne. Tout d'un coup, il y a plein de choses qui font du sens. Quand on voit qui tu es, c'est assez drôle, en fait. De voir la personne en face, t'es là, ok, je comprends.
Ah, ok, elle est juste complètement pétée. D'accord, je comprends.
Mais c'est peut-être lié aussi au fait que comme... Les seuls retours qu'on a eus, c'est les articles qui, justement, sont assez creux. Mais en fait, on ne peut pas capter ton essence. Ouais. Et c'est vrai que de se voir... Ouais. Je suis d'accord avec toi, Lierza.
Le plus que j'ai réussi à capter ton essence, c'est quand j'ai terminé tout le compte Instagram. Quand j'étais
t'as lu tout le compte Instagram.
Ouais. Ah oui, on l'a lu en entier.
Purée. Tout d'un coup, je m'étais affectionnée et de toi et de Mike. Il y avait un côté un peu comme ça. C'était assez drôle. Du coup, merci beaucoup. Merci aux créatives, encore une fois, d'avoir
merci passé à nous.
Si vous voulez aller voir Jeanne, sa performance à Genève, au Festival des Créatives, tu te produis le 22 novembre et le 23 novembre en soirée.
Oui.
Ok, super. Et on peut acheter des billets sur le site des créatives,
ouais,
j'imagine.
Tout à fait.
Au festival. Donc, allez voir Jeanne à Genève. Toi, Agatha, tu vas la voir, je crois.
Oui, le 23. Je serai là.
Cool.
J'aurai le plaisir de te revoir aussi à cette occasion.
Donc, je parlais, oui.
Super. C'était Les Poissons sans bicyclette, podcast féministe lausannois indépendant.
La musique, elle est faite par...
Ah oui, la musique, elle est faite par Les Poissons sans bicyclette. Si vous voulez nous soutenir, si vous voulez soutenir Jeanne aussi en l'occurrence, partagez cet épisode, parlez de cet épisode autour de vous. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, on a un site Patreon qui est sur la bio Instagram. patreon.com/lespoissons sans bicyclette. Dès 5 francs par mois, vous pouvez avoir accès à du contenu exclusif.
C'est vraiment... Ça vaut vraiment le coup.
Franchement, 5 francs par mois.
Ouais, c'est rien.
Des fois, tu
un
perds
café.
5 francs. Oui.
Moi, tous les jours, je perds
5 francs. Putain, meuf, ça explique beaucoup de choses.
En bière.
Tes habits, on trouve. Tes habits. Ok, bye. Ciao, Agatha.
Ciao, Lierza.
Ciao, Jeanne.
Ciao, Jeanne.